Taliban, Yibangu Babane, Wawa Yakome, Wawa Bobsme, Wawa Papame, Wumbi Sawe, Weni Mama, Mele Lango Mamo, Mubama Mubochi, Baba Wale Namwa Nagebu Meba.
Oh, 01 43 71 89 40 sur Radio Liberté. Radio Liberté, ben, ça n'a pas changé. C'est la radio de la Fédération anarchiste. Alors, sans Dionymète, mais aussi sans sponsor ni publicité. Alors, pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse. Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est entre Filles du Calvaire et République. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Ben voilà, y compris l'international in toto. Hein, puisque je crois que là, tout le monde est réuni, là, tout le monde est là. Il n'en manque pas. Ah si, il manque M. Kader et Jean-Navi.
Oui.
On va quand même le saluer. Hein. Le président, tout, il règne sur tout ça. Il faut aussi remercier Monique, hein, qui, voilà, il est arrivé plein de malheurs, je ne peux pas vous les dire, mais elle est là, fidèle au poste. Et le micro, il faut se mettre devant le micro, monsieur, c'est ça? Voilà, ça c'est pas une caméra, c'est un micro. Merci, monsieur Moscovici, c'est parfait. Mona Huerta, on se réunit aujourd'hui en dépit d'une chaleur tropicale, là, parce qu'il y a un événement qui se prépare.
Qui se prépare?
Le 4?
Oui.
Là.
C'est monsieur Poplimont, ici présent.
C'est monsieur Poplimont, nous l'avons, qui règne sur tous les musées de la région parisienne et intramuros.
Exactement.
D'ailleurs.
Hein? Tout à fait.
Il y a du boulot d'ailleurs.
Oui, alors... Et donc la Halle Saint-Pierre a l'élégance de nous recevoir le 4 juillet dans son amphithéâtre. Et donc nous invitons tous les auditeurs et leurs amis à venir nous écouter, débattre avec nous écouter de la musique et puis assister ou demander des signatures aux auteurs qui seront là pour ce faire.
Donc c'est à 15h, c'est ça?
C'est à 15h chez monsieur Poplimont de la Halle Saint-Pierre.
Il est là, nous l'avons. Monsieur Poplimont, comment ça va?
Eh bien, ça va très bien.
Bon, on va quand même réduire un peu la voilure. Vous ne régnez pas sur tous les musées de Paris.
Déjà, la librairie de la Halle Saint-Pierre, c'est beaucoup.
C'est pas facile. C'est... D'accord. Bah, qu'est-ce qui se passe à la Halle Saint-Pierre à part ça?
Eh bien, on arrive à la fin de l'exposition actuelle consacrée à l'étoffe des rêves, à la broderie et. Tissage autour du surréalisme et de l'art brut, et on prépare la prochaine exposition à la rentrée qui commencera le 11 septembre et qui sera consacrée à l'AS Grand Atelier, un atelier en Belgique dirigé par Anne-Françoise Rouche, qui est un atelier participatif, donc qui travaille autour d'artistes en situation d'altérité de mentale et d'artistes aussi contemporains. Et donc on est sur justement aussi là, une dynamique aussi, un nouveau questionnement autour de l'art brut, donc qui va s'appeler l'art brut ressourcé en lien avec Michel Thévoz, pour aujourd'hui réfléchir justement aussi à une collectivisation et comment aussi par un travail collectif on peut arriver à l'émergence de singularités. Et voilà, donc ça sera passionnant avec beaucoup de rencontres tout au long de la saison.
Et voilà. Pas d'éventail, monsieur, pas d'éventail.
Pas d'éventail.
Bon, on va faire les présentations. Monsieur Marc Cobert, oui. Vous connaissez la maison.
Mais oui.
Vous êtes venu il y a des années, non?
Même à l'autre adresse.
Vous êtes venu à l'autre adresse, vous?
Oui.
C'était à Montmartre, c'est
exact,
ça?
Oui.
D'accord. Charles Lilous, vous connaissez...
Bonjour, monsieur, dame.
C'est bien. Et vous connaissez aussi malheureusement Trou Noir, l'émission que tient
bien
Monique.
Bien sûr, oui, j'ai... discuté dans diverses émissions, ici Onde de choc, Trou Noir.
Oui.
Trou Noir autour de la Nouvelle-Calédonie, les révoltes au Québec. Voilà.
J'ai été très surpris parce qu'ils ont été très contents de vous recevoir.
Ah bon?
Oui, ça m'a surpris.
Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on finisse ça dans sa...
Denis Moscovici. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on a un beau sujet, là. On a un beau sujet. Le vôtre, c'est quoi?
Dans le prochain numéro, oui, parce qu'on n'a peut-être pas assez dit, mais c'est bientôt le lancement du
voilà, 8, hein, c'est le dire, oui, c'est qu'on est là aussi pour ça.
On est là pour ça, hein. Donc effectivement, dans ce prochain numéro, il y aura, on commence par la fin, c'est ça?
Non, on va faire un tour de table, pour dire ce qui se passe là. Non, simplement que c'est Moni de Bouly, c'est ça?
Voilà, c'est donc commencer par la fin, puisque c'est la rubrique in fine du numéro.
Ah, la fin du numéro, j'avais pas compris.
Par la fin, donc il y aura le in fine de ce numéro 8 sera consacré à Moni de Bouly, simplement en avant-goût, puisque ce poète important, d'origine serbo-croate, né à Belgrade. Pas connu, mais néanmoins, je pense assez connu des personnes qui lisent de la poésie, parce qu'il a fait partie du grand jeu. Et il a fait un passage dans la Révolution surréaliste numéro 5
c'est
en
ça.
1925, donc c'est quand même, c'est pas rien.
D'accord, mais si je vous dis Moni de Bouly, Salomon Bully, c'est ça. 1968, c'est bon pour l'instant?
C'est pour l'instant, tout est bon.
Alors, poète surréaliste d'origine juive serbe.
Exactement.
Bon, on est bon. Arrivé à Paris en 1925.
Ah ben, c'est ça.
Il se lie rapidement avec Breton et Aragon.
Alors il se lit rapidement parce qu'il est quand même aidé en ça, puisque ses maîtres à Belgrade sont deux initiateurs des mouvements d'avant-garde là-bas à Belgrade.
Alors on continue, ouais. Participe à la Révolution surréaliste, repose à la division, ça vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, repose à la division 5 avec le cinéaste Klaus Lanzmann.
Qui fut son beau-fils, puisqu'il a été marié avec Paulette de Bouly,
voilà, c'est pour
qui
ça.
Était Paulette Lanzmann.
Voilà.
Et donc son premier mari, Paulette, c'était Monsieur Lanzmann, et c'est le père de Claude Jacques Lanzmann, et également d'Evelyne Lanzmann, Evelyne Ray, une actrice qui s'est suicidée dans les années 60, fin des années 60, je pense.
Alors on le trouve au cimetière, non pas au Père Lachaise, mais au cimetière du Montparnasse.
Ouais.
Et là, bon, je tire ça d'un livre, le Père Lachaise surréaliste. Je ferai une émission. Monique va revenir spécialement du Cap d'Agde où elle fait un stage de ski nautique chaque année. Elle va être là, comme ça. On recevra Étienne Ruot et Jacques Kodak en a fait les illustrations. Alors, je ne l'ai pas pas encore lu ce livre, je ne l'ai pas encore lu. Il y a simplement une chose, en feuilletant là. À un moment donné, il est dit que Robert Desnos a un crucifix sur sa tombe. Alors, on a été vérifier tout ça. Il est dans une tombe, dans un espèce de caveau familial. Il n'a rien à voir avec la croix. La croix est vraiment incrustée dans la pierre. Alors, le pauvre Robert, qui est revenu de Térésine, n'a pas pu faire grand-chose, là. Par contre, où il y a une erreur, et ça, je ne suis pas très content par rapport au livre, c'est que sur la tombe de Robert Desnos, il y a une bouée. On a mis une bouée depuis très longtemps. Tout simplement, c'est un hommage à Robert Desnos qui, dans un de ses premiers poèmes en 1924 ou 25, avait dit que mieux valait avoir une bouée sur sa tombe parce qu'on ne s'étend jamais. Alors, donc voilà. Ça, on va revenir sur tout ça, Mona.
Oui.
Alors, c'est donc le numéro 8 digne de la bande à Toto qu'elle a. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans?
C'est un numéro très varié, il y a beaucoup de choses. Et donc, comme d'habitude, ça obéit aux intérêts des uns et des autres. À ce titre, nous recevons pour la première fois en français les lettres sur soi-même d'André Rosedin par Patrice Conti. Nous avons un dossier fort... avantageux, dirais-je, sur Guy Flandre, qui n'a pas laissé une œuvre graphique ou littéraire très intense, mais qui avait la caractéristique, son œuvre, c'était sa vie, sa relation avec les autres. Et donc, à ce titre, c'est un passeur d'idées, d'expériences, et donc on fait appel à tous les gens qui ont été autour de lui, qui illustre ce dossier également. Ceux qui ont accompagné Guy Flandre le long de son existence, notamment Oscar Borillo, des gens comme Michel Capmal, Kader, El Janabi, qu'il a rencontré
on le connaît, oui.
Très souvent. Et c'était un voisin.
Il habitait 42. Il a habité dans la maison André Breton toute sa vie.
Non, pas toute sa vie.
Pas toute sa vie, non.
Il a habitué après la mort. Il a vécu au 42 rue Fontaine après la mort d'André Breton. Ce qui l'a conduit à vivre en compagnie de Toyen et d'Elisa Breton, à la fin de leur existence.
Puisqu'on nous avons un historien du surréalisme, c'est Denis Moscovici ici. Quand vous allez au 42 rue Fontaine, ça m'a toujours intrigué. Il y a deux plaques. Ouais. La première plaque, c'est André Breton, il a habité 42 rue Fontaine. Et juste à côté, il y a Joséphine Baker.
Sur l'immeuble d'à côté.
C'est sur l'immeuble d'à côté.
L'immeuble d'à côté.
D'accord.
C'est un bar.
Donc Joséphine Baker a chanté là-dedans.
C'était une salle, je pense, ouais. Et elle a dû chanter là-dedans.
Bon, c'était en quelle année? C'était en quelle année?
Alors là, mais il y a eu forcément des... Enfin, forcément, Breton était dans les lieux. Hein,
oui, donc, c'est ça que je... Et il n'y a pas de preuve, j'ai jamais trouvé un texte, quoi que ce soit, où il dit que Breton est passé par là, Monsieur Peuplimont. Ça vous dit rien, ça?
Non, je suis passé devant, je me suis fait la même remarque, mais j'ai pas plus d'informations. Ouais.
Les deux plaques sont côte à côte, mais pas sur le même immeuble.
Mais vraiment côte à côte, c'est 42 et 40 ou un truc comme ça.
C'est ça.
Ah oui, d'accord.
C'est un bistrot. Hein,
Alors messieurs, j'ai une chose à vous dire de très importante. Je suis en train de faire une enquête là, parce que je suis très très... Alors, il y a eu une invitation à cette émission, vous êtes tous là. Je voudrais savoir qui a osé dire « Le surréalisme éternel, c'est du poulet ». Je voudrais savoir d'où ça vient. Vous êtes exclu, monsieur Moscovici, vous êtes trop bien pour tout ça. Madame Huerta, c'est pareil, aucun problème. Monsieur Peuplimont n'était pas au courant.
Non, j'apprends.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis surpris.
C'est la moindre des choses. Il m'en reste deux.
Voilà, ça y est,
Monsieur Cobert.
Ça va tomber sur moi.
Ouais, c'est tout sur toi,
Charles. Monsieur Cobert.
C'est toi qui
responsable. Et Monsieur Charlie. On va écouter après un peu de musique et puis après on va développer si c'est vraiment du poulet ou pas. Remarquez, moi je suis d'accord. Hein.
Ouais.
Je suis d'accord, je persiste ici.
Moi j'ai préparé
l'éternel surréaliste. Le surréalisme.
C'est l'éternel et c'est du poulet. Oui.
Ah bon. Tu sais qu'il y a une polémique sur les fast-food poulet et tout ça. C'est un sujet d'actualité. Donc moi, j'ai amené de la documentation sur ce sujet. Je pensais que c'était le sujet de l'émission, d'ailleurs.
Oui. Alors, si c'est un de vous deux, je vais vous dire une chose. Après, on écoutera un peu de musique. S'il y avait un malotru autour de cette table, qu'avez-vous voulu penser le surréalisme éternel, mon cul. on peut rêver comme ça. Si quelqu'un avait voulu corriger, c'est du poulet. Alors, je veux dire que celui qui a dit « mon cul » est très fort en phénomène d'induction, parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui ont lu « Le surréalisme éternel, c'est du poulet » traduisent par « mon cul ». Alors, la supercherie n'a pas marché.
Ils ont l'esprit mal placé.
Mal placé.
Parce que, bon, ça peut être du poulet mayonnaise, du poulet rôti, du poulet cornichon. pas forcément.
Bon, bah, écoutez, un peu de musique, et puis je vous absous. Je ne vais même pas savoir qui c'est de vous deux. Hein, d'accord, parce que là, c'est vraiment un circoncis. Hein, on y va, là. On y va. Merci Monique. Alors cette musique, c'est Chostakovitch, dans sa jeunesse, sur un poème ou sur un texte de Mayakovsky. Alors selon les traductions, alors, ce serait la maîtresse d'école et le voyou, ou l'institutrice et le hooligan. C'est, voilà. On ne sait pas trop, ça dépend de la traduction. Mais si on a posé, si c'est un de vous deux ou moi-même, tant mieux, on a posé ce problème du surréalisme éternel et du poulet. C'est parce que, pour affirmer que quand même que le surréalisme est quand même athée. Il faut dire les choses comme elles sont. Non ?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, on se rappelle de l'âge d'or, hein, le Buñuel.
Oui.
Et puis, même dans ces, on va dire, dans ces prises de parole initiales des gens qui ont peut-être pas très bien tourné, mais Aragon, etc., qui, avec... avec évidemment ce côté un petit peu, si ce n'est blasphématoire, en tout cas provocateur de la jeunesse des années 20, qui de ce point de vue-là avait été résolument prêt à faire connaître ses opinions. Et c'était à nouveau qu'il les estimait être complètement affranchis de la foi de leur père, hein, n'est-ce pas ? C'est pas tant de pas croire en Dieu, mais c'est surtout de ne pas croire en un héritage, un capital d'idées qui était là et qu'il fallait reprendre et peut-être et continuer à porter pour le transmettre à son tour. C'est une rupture dans l'héritage.
Quand même, il y a quand même une volonté d'athéisme dans le premier surréalisme, à la niche avec la pisseur de Dieu et choses comme ça.
Ah oui, bien sûr.
Non, Marc Cobert.
Ouais.
Non.
Si, si.
Alors pourquoi on a lancé ça comme ça ? Pourquoi ça a été lancé ? Parce que ça vient de Paul Sanda. Paul Sanda qui tient sa revue et qui a lancé là le surréalisme éternel, c'est ça ? Silence éternel. Bon. Moi, on m'a demandé d'y participer. J'ai fait un bond. J'avais commencé à rédiger quelque chose et puis c'était très offensif par rapport au sujet. Et puis Kader a été contacté.
Oui, oui.
Et on a décidé de faire un texte, un tiers groupé. Hein, donc, auquel tu as participé, là. Ouais. Et qu'est-ce que tu racontes
dans ce texte
je dis un peu ce qu'on vient de dire, quoi, que finalement, ce qui est gênant, c'est le mot éternel, enfin, c'est les connotations du mot éternel, pour moi, c'est vraiment l'au-delà, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est figé, c'est tout le contraire de la spontanéité, de l'instant. Et donc, si tu veux bien, je peux lire un petit aphorisme, un petit poème japonais. Cessez de vous en faire et suivez le courant. Si vos pensées sont liées, elles perdent leur fraîcheur. Voilà, c'est ça le problème. L'éternité, c'est vraiment le sarcophage. C'est le.
C'est un déterminisme.
C'est le figement du surréalisme. Alors, c'est pas du tout ce que moi j'ai relu un petit peu les manifestes et tous ces textes qui sont un peu datés, hein, qui sont réunis dans une édition chez Pauvert. Et on trouve pas cette préoccupation de l'éternité. Au contraire, on trouve beaucoup de doutes, de questionnements, de mise en cause de ce qu'est devenu le surréalisme à différentes époques.
En culture de l'instant, dans le surréalisme.
Oui,
aussi.
En plus, voilà, il y a l'imprévu. C'est l'imprévu qui est important. Et on trouve chez Schuster aussi, là j'ai une citation de Schuster. C'est à l'innocence. Non, pardon, c'est une citation de Breton. C'est à l'innocence et à la colère de quelques hommes qu'il appartiendra de dégager du surréalisme ce qui ne peut manquer d'être encore vivant et de le restituer au prix d'un assez beau saccage à son but propre. Mmh. C'est ce qu'écrit Breton dans le second manifeste, donc dans les années 30. Et donc c'est pas du tout... c'est la question de voir qu'est-ce qui est encore vivant, les œuvres vives du surréalisme. C'est pas de le figer dans un dogme qui nous ramène justement au dogme religieux, aux trois monothéismes... auquel échappe le bouddhisme d'une certaine manière.
Mais il me semble qu'il y a une autre idée qui est soulevée par Abdelkader El-Djenabi dans le texte qu'il propose sur ce thème du poulet et de l'éternité. C'est, lui, il met ça, il cherche à quoi un concept aussi insaisissable vient s'opposer à autre chose qui, à l'époque, justement, des surréalistes, jusqu'à aujourd'hui, a une importance majeure, parce que le concept est plus, disons, délimité, borné à droite et à gauche, si l'on peut dire, c'est celui de l'historique et de l'historicité. L'éternité, par opposition, ça vient complètement s'opposer à l'historique. Ou repérer l'historique dans l'éternité, ça oblige à, disons, des allers-retours entre des modes de pensée qui sont un petit peu complètement incompatibles. Hein, donc, c'est peut-être en quoi c'est intéressant, si l'éternité est insaisissable et que l'historique prétend justement, lui, offrir des catégories qui permettent vraiment d'être pensées de manière rationnelle, alors il est bon de faire revenir l'éternité pour ne pas rester dans ce carcan-là.
Oui, mais là, tu es en plein dans le vif du sujet, je m'accorde en étant surréaliste, le matérialisme historique existe.
Existe.
Il existe, on le reconnaît, je veux dire, on le reconnaît. Breton le reconnaît au départ.
Oui, il existe. C'est ça, je veux dire. Il existe tant que c'est pas une existence qui est de l'ordre de la foi. Si c'est une méthode, et une méthode d'analyse, bien sûr. De ce point de vue-là, on peut dire, est-ce qu'il existe? Est-ce que la chute des corps existe? Est-ce que ça dépend des systèmes d'observation qu'on adopte, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque des manifestes, par exemple, Breton déclare sa foi dans le matérialisme dialectique, dans le matérialisme historique. C'est clair, hein, il a lu Marx et il est...
Non seulement à cette époque, mais même dans les années 60 et jusqu'à la fin, et après lui avec Schuster, on est toujours dans une analyse marxiste. Critique, évidemment, mais la dernière exposition est une exposition qui s'attelle au problème où on se trouve actuellement, c'est la société de consommation, l'hégémonie de la finance et du commerce, etc. Mmh. Donc le surréalisme, pour Breton et pour ceux qui l'ont accompagné, c'est réagir en permanence à l'accidentel historique, aux événements, et réagir, mais en fonction de certaines valeurs qui restent relativement intangibles. Et là, on peut les questionner, parce qu'elles sont... C'est toujours la femme, par exemple. La femme, la révolution, la liberté, non, la femme, la liberté, et puis bon, des valeurs comme ça, comme les valeurs de la République.
L'automatisme.
Non, c'est le rêve, ou je sais plus. Enfin, il y a trois valeurs cardinales auxquelles on, par rapport auxquelles on ne peut pas transiger, mais dans ce cadre-là, à partir de là, toutes les attitudes, les comportements, les réactions sont possibles. Et on ne peut pas rester dans cette idée d'éternité.
Lorsque il y a des années, Paul Sanda est arrivé sur, dans cette aventure, il est venu plusieurs fois sur Radio Libertaire, il a fait très peur à Monique, je m'en souviens d'ailleurs. Justement, alors déjà, c'était un être très vivant qui avait une rupture avec tous les surréalistes que moi, je fréquentais pas, mais que je voyais passer, que je trouvais très figé. Il avait un corps, il avait une voix, il avait une façon de s'attaquer au problème, c'est-à-dire une espèce de syncrétisme. Il avait une casquette trotskiste, une bague d'évêque et un ceinturon, je ne sais pas trop quoi. Et c'était très drôle, ça me fait penser aux chasses que je croisais dans les rues de Naples, où on voyait un préservatif, une bande, une jambe en celluloïde, un Maradona, n'importe quoi, tout ça, ça tournait, la croyance tuait la croyance. Mmh. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, ce personnage a tenu une revue qui s'appelait, on est en plein dans le sujet, qui s'appelait Mange-Monde, et dans cette revue Mange-Monde, il y a un crétin, on est en 2017, qui a fait une apologie de Poutine.
Ah bon ?
Oui, une apologie de Poutine. Personne n'a réagi.
Il parlait peut-être du plat canadien.
Personne n'a réagi, alors qu'on était là, déjà l'Ukraine avait déjà subi Poutine, et on commençait, personne n'a réagi, parce que c'est parce que les gens veulent à tout prix placer leur texte, etc. Donc c'est une erreur, déjà, au niveau du matérialisme historique, quand tu me dis, on ne sait pas si ça existe. Poutine a envahi, on ne peut pas aller contre.
Oui. Mais enfin, le matérialisme historique, ça existe moins que ce micro. Ça dépend, encore une fois, de quel point de vue on se place. C'est...
Comme l'élément d'analyse, tu n'analyses pas la vie avec ton micro.
Certes, mais il existe aussi. Oui, je veux dire que tu peux pas. La sanction de l'existence n'est pas suffisante pour savoir à quoi on a affaire.
Enfin, d'accord.
Parce qu'il y a des choses qui n'existent pas et qui pourtant ont tout intérêt à être étudiées, analysées, comprises, etc.
Attends, je finis après. Les choses vont et ce phénomène de plaisanterie, de syncrétisme, etc., va se transformer en quelque chose, puisqu'on m'a envoyé le document, là, qui est beaucoup plus grave, parce qu'il y a un côté qui est fallacieux. Je vous rappelle quand même qu'on trouve chez les surréalistes de la première heure, qui voulaient aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme. On m'envoie une photo, on voit Paul Sanda avec un chapeau d'évêque, etc., une mitre, etc., en pleine cérémonie. Il y a une formule latine, voilà. Alors, il s'appelle To Sandivogius, Monseigneur Paul Sanda, successeur de l'abbé Julia en son évêché de Cordes, avec le pontifical cordais et la mitre rosicrucienne, les habits aux trois couleurs de l'alchimie pour la bénédiction gnostique avec To, je sais pas quoi. Bon. Et Monseigneur Paul Sanda, évêque rosicrucien, etc., corde sur ciel. Bon, on pourrait penser, c'est ça, il fait de l'édition surréaliste, et en même temps, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, si c'est un masturbateur, il va se masturber, s'il veut être n'importe quoi, il le fait. Mais là, il y a un truc beaucoup plus grave, c'est que juste en dessous de cette carte postale, il y a un texte. Et c'est un texte de Benjamin Perret.
Non, mais ça...
Normalement. Eh oui, moi, voilà. Je lis le texte. Voilà, non, voilà, ouais. C'est drôle de faire de la radio parce que j'avais complètement oublié ça et j'ai reçu un courrier. On me l'a envoyé. C'est très bien. Alors, je vous lis le texte de Benjamin Perret. Qui nous donnera un Dieu rafraîchi comme un crâne sortant de chez le coiffeur, un Dieu plus sale et plus nu que la boue? Le nôtre, lavé par les rivières, n'est plus qu'un absurde et livide galet. Donc, il a réussi à tirer
une citation
de Perret qui n'a rien à voir. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non ?
Non, absolument.
Mais il a de quoi se...
C'est sorti de son contexte.
Avoir une indigestion
totale. Oui, bien sûr. C'est comme si on disait foutre Dieu, donc on est... Mmh. Alors on devient chrétien pour autant. Voilà.
C'est dommage que Benjamin ne ressuscite pas pour lui cracher à la gueule.
Pour lui péter la gueule. Excusez-moi. Stéphane, qu'est-ce que tu en penses ?
Je découvre.
Oui, qu'est-ce que tu en penses ? De voir que le surréalisme peut finir avec une mitre.
Non, mais ça, c'est insupportable.
Ça fait penser à une citation de Marcel Marienne, qui était
belge.
Qui était belge,
est revenu, c'est
très,
ça
très communiste aussi. Et qui disait Bismarck se branlait d'une main de fer. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein,
oui, c'est pas mal.
À l'autre, avec la mitre.
C'est pas mal. Voilà. Mais c'est là que la vigilance surréaliste
a affaibli. Comment peuvent-ils pactiser avec des gens comme
bien
ça?
Bien sûr.
C'est vraiment une insulte permanente au surréalisme, historique ou éternel, qui disent, hein, mais ils connaissent pas, ils ne lisent plus, ils ne savent plus.
Donc,
c'est insupportable.
Oui. Après, tu nous racontes un peu ce que tu voulais raconter à ce micro là. Et dans le Père Lachaise surréaliste, ça commence par Alexandrian et Madeleine Novarina. Mmh. Et Alexandrian qui dit à un moment donné, la politique n'a rien à voir avec la poésie.
C'est
deux milieux, etc. Mais c'est très dangereux. Ça veut dire n'importe quel réactionnaire va faire un peu d'occulte, un peu de merveilleux, il va devenir surréaliste, quoi.
Mais la preuve.
Voilà. Et c'est aussi occulter tous les tracts et les prises de position du surréaliste. Hein. Et c'est quand même Schuster et Mascolo qui ont initié le manifeste des 121. Il y a quand même contre le colonialisme. Bah, tu sais mieux que moi.
J'ai l'honneur d'être le descendant d'une femme.
Vas-y.
Ma mère, Marie Moscovici, qui a signé ce manifeste.
C'est pour ça que je te dis ça, tu sais.
À moins de 30 ans.
Tu connais l'histoire mieux que moi. Voilà. Il y a toute une vigilance quand même politique surréaliste. On ne peut pas faire l'économie. Hein.
Dans le numéro 8, on cite une lettre de Robert Lagarde et on la montre, qui a signé le manifeste avec un certain nombre de surréalistes, bien entendu, et qui a été poursuivi pour cela. Donc,
il a été poursuivi, et d'ailleurs, André Breton lui-même a écrit au juge. Pour lui dire, écoutez, si vous mettez en cause certains de nos camarades, nous on s'engage, on est des intellectuels engagés, et donc vous nous mettez également en prison.
Jean Maillot, qui avait un très beau prénom d'ailleurs, je tiens à vous le dire, il était inspecteur de l'éducation nationale, il a signé le manifeste, il s'est retrouvé peut-être pas au chômage, mais inquiété après.
Tout un tas de fonctionnaires se sont retrouvés inquiétés, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Breton lui-même a pris la plume pour dire non, mais si vous. On est engagé, on n'est pas différent des autres.
Hein, donc on ne peut pas faire l'économie du politique ou de la prise de position en sortant l'occulte ou le merveilleux, parce que c'est. Quelque chose qui ne va pas. On va écouter un peu de musique et vous allez intervenir, mademoiselle Monawerthaus.
Sur quoi?
La guerre d'Espagne.
Ah.
Si, vous êtes là pour ça, vous l'avez promis. Hein.
Thank you.
Toujours au 01 43 71 89 40, bah, toujours avec Mayakovsky et Shostakovich, l'institutrice et l'Oligan, comme vous voulez. Là. Effectivement, M. Kobert, pour une fois, a une bonne réaction. Il me donne le nom de Gegenbach. Faut dire à peu près qui c'est, Gegenbach. C'est le.
C'est un.
Un coup.
C'est quelqu'un qui intervient dans le groupe surréaliste, qui apparaît et qui apparaît d'abord comme un curé avec sa soutane. Et évidemment, ça fait un choc. Mais il vient demander aide, en fait, pour des raisons passionnelles. Il a une passion d'amour et donc il est partagé entre sa foi et l'amour. Bon, c'est un coup classique. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais Breton, il trouve sympathique ce curé qui éprouve l'amour fou, quoi.
C'est un défroqué incessant, parce qu'il se défroque, il se refroque, il se défroque, il se refroque. Hein.
Mais après, il sera une sorte de personnage satanique, tu vois.
C'est ça. Mmh. Monard, je sais que tu es très sensible au phénomène de l'athéisme.
Oui, oui.
À tout
oui.
ça, aussi à ce qu'on a raconté avec cet homme à la mitre, là, qui t'a choqué, etc. Tu m'avais dit, parce que toi, tu viens d'un certain milieu, d'une certaine pensée, d'un certain... Voilà.
Oui, donc moi, je le dis, je suis fille de républicain espagnol. Mon père était anarchiste. Il a vécu toute sa vie avec l'obsession de nous enseigner l'athéisme. Enfin, on était les seuls dans notre quartier, dans notre école, à ne pas aller au catéchisme, par exemple. Et on a baigné là-dedans depuis qu'on était petit. Mais c'était un libertaire de base. C'est-à-dire, ce n'était pas un théoricien, loin de là. Mais c'était profondément ancré dans la famille et on a hérité de ça, notamment sur les questions de ni Dieu ni maître, pour reprendre le tableau que j'ai en face de moi. Cela dit... ce qu'on a retenu de cet enseignement, c'est que ne pas oublier d'où on venait, c'est les valeurs cardinales, à savoir il est important d'être libre, il est important d'avoir le sens critique, il est important d'acquérir la connaissance, et puis le reste, on s'en fout. Voilà. Et donc c'était une vieille... Mon père était asturien, des Asturies. Dans sa famille, il y avait à la fois des libertaires et à la fois des gens de droite. La famille s'est scindée en deux. Nous ne les avons connus que très tard, nous, les descendants de la deuxième génération. Mais bon, pour eux, on était des curiosités ambulantes. Hein. Ils n'avaient jamais vu ça, La première question que mes cousins m'ont posée, est-ce que tu connais l'Ave Maria ? Alors, je dis oui, bien sûr.
Je connais que ça, oui.
Je leur ai fredonné, ils n'en revenaient pas. Mais bon, voilà, alors qu'on ne les connaissait pas plus que ça. On porte tous les mêmes noms dans la tradition espagnole, dans la famille, que des César, que des Antoine, que des Antonio. Mais bon, voilà, il y avait une scission fondamentale et l'enseignement portait là-dessus, toujours. C'est une vieille histoire, l'anarchisme en Espagne. Ça existe de façon peu théorique, sans doute, mais depuis le début du 19e siècle. Donc, les travailleurs de la terre et les travailleurs d'usine étaient pris entre deux étaux, l'ordre monarchique violent et la naissance du capitalisme. Et donc, ils ont initié pas mal de grèves, etc. Et ont nourri beaucoup la pensée et surtout les fantasmes de tous les gens qui voulaient se révolter. Ça a duré jusqu'à la fin de la guerre civile. D'accord. Voilà.
Donc l'athéisme, c'est important pour toi ?
Ah ben ça, c'est pour ça que je ne peux pas supporter.
Mais comme vous êtes tous informés de Monsieur Abdelkader El-Janabi, je crois que c'est toi qui as préfacé la réédition du Désir Libertaire, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Abdul a été très tôt informé d'Adorno. Il y a dans le Désir Libertaire, à un moment donné, un salut à l'école de Francfort.
Oui, oui, oui.
Je sais pas, oui, je dirais, je rêve pas.
Non.
Oui, oui, ce qu'on n'a pas fait, nous, à Paris,
le deuxième,
on l'a pas fait. Lui, il a réussi à le faire. C'est ce salut à Adorno. Là, on va revenir au matérialisme historique. Hein. C'est très drôle parce que on se voyait pas. Moi, j'ai lu Benjamin et lui, il a lu Adorno.
Voilà, mais c'est oui, très... non, mais lui, il a à peu près piqué dans toute l'école de Francfort.
Bien sûr.
Et donc, Il a une mémoire très visuelle à travers les pages des livres. Il parle de Minima Moralia, il dit quelque chose, il sait très bien dans quelle page ça se trouve, après l'avoir lu il y a plus de 30 ans. Hein. Donc c'est vraiment, comme il est passé aussi par le situationnisme, et donc il a été ballotté justement entre ces différentes pulsions.
Mais je veux dire que le désir libertaire, c'est pas du merveilleux, c'est pas de l'occulte. Il y a toute une conscience politique derrière. On peut parler déjà dans le titre.
Non, mais en plus, le désir libertaire en français, c'est la traduction d'un mot arabe. Et en arabe, ça doit être beaucoup plus percutant qu'en français.
Il y a un côté pervers, c'est ça, non?
Non, pas pervers, mais bon, très curieux, très mystérieux.
Mystérieux, pour les arabes, pardon, excuse-moi, c'est pas ça, c'est autre chose que je cherche. Je vais y aller. Bon, attendez, j'ai promis à Kader, bien sûr. Alors, c'est un poème qu'il a écrit pour Alphonse Girard.
Oui.
Si Alphonse, il nous entend, on va dire bonjour à Alphonse, quand même.
Oui, oui, bien
j'espère
sûr.
J'espère qu'il sera là le 4.
Oui, oui.
Il va être là, le 4, Alphonse.
Ah ben, on lui dira, on lui a dit déjà.
Il y aura de la musique aussi, parce qu'il faut que je fasse travailler, monsieur.
Ah oui, on aura de la musique et on espère que toute la technologie sera au point à la Saint-Pierre, parce que nous aurons un spectacle détonnant.
Bon! Je ne peux pas en dire pas plus. Bon, alors, Alphonse Girard, que l'éditeur, en fin de compte, de la collection Mauvais Sang.
De la collection Mauvais Sang, des éditions Asymétrie.
Asymétrie, il faut le dire. Asymétrie, hein.
Oui.
Voilà. La paille dans ton œil, dit Adorno, est le meilleur verre grossissant. Je vois ainsi la masse ronde, unanime, s'incliner au mirage des vitrines. Je vois dans le miroir d'un cri errant la négation cicatrice d'une aporie. Je vois dans le flot de la praxis, à la cime de la dialectique du monde, la théorie où dormir tiède sans écume, comme une rose sans épines, flottant sur le bitume, jouant la rue au dé, nous pétrirons avec elle l'arme et le cahier des comptes. L'homme, en glissant sur des eaux fatales, se libère de ses chaînes, nulle fleur à cueillir. Il s'efface au loin, sans distinguer midi de la tombée du jour. Les mots ne sont plus transparents dans leur feuillage.
Merci, Jean.
Eh ben, tu vois, c'est Kader, ça plane, ça plane, mais pour moi, c'est matérialiste. Je m'excuse, je suis peut-être obsédé par ça.
Ah non, mais
la transparence des mots dans leur feuillage, tu vois, voilà.
Oui, 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 non, mais j'applaudis aussi, hein. c'est un très beau poème.
Voilà.
Mais pour revenir au désir libertaire, juste un mot là-dessus, hein. Et puisqu'il était question de athéisme, cet athéisme, c'est pas, en tout cas tel qu'il apparaît chez Kader dans le désir libertaire, c'est pas un athéisme simplement une conviction que on doit se passer de Dieu et il nous aide pas à grand chose. C'est pas ça. C'est une véritable protestation, révolte, encore une fois, contre un héritage. Il refuse ce Dieu qu'on lui a confié. Avec tout ce que ça signifie dans le monde arabe, il ne veut pas, parce que lui, effectivement, il aspire à tout autre chose. Et ce qu'il découvre dans les surréalistes, c'est d'un seul coup, ce sur quoi il ne mettait pas de nom, eh bien, en Europe, on l'avait déjà fait. Il se rue à Paris, non pas pour essayer de devenir surréaliste, parce qu'il sait que c'est terminé, cette aventure, pour se retrouver sur les lieux où quelque chose d'autre a été donné à penser. Et donc, vraiment, c'est une rupture, encore une fois. C'est pas tant Dieu qui est repoussé, c'est encore cette morale des pères et des ancêtres, hein, c'est-à-dire dans vraiment des lignées humaines, et non pas... il se fout du Dieu qui habite sur les nuages. Par contre, son père, il le connaît, son grand-père aussi. Et c'est ça, c'est cette espèce de transmission qu'il refuse absolument.
Surréaliste, nous n'avons cessé de vouer. Ça y est, hop, y a plein de sur. Nous avons cessé de vouer à la Trinité, État, travail, religion, une exécration qui nous a souvent amenés à nous rencontrer avec les camarades de la Fédération anarchiste. Après, je vous dirai ce que j'en pense. Pour Perret, la religion chrétienne la plus évoluée et la plus hypocrite de toutes les religions représente le grand obstacle spirituel et matériel de la libération de l'homme occidental. Voilà, ça au moins, c'est... on ne peut pas être plus clair que ça, hein, Benjamin Perret. Oui, mais là, on est absolument d'accord. Hein. On est absolument d'accord. Je vais me faire mal voir. Non, à part par M. Cobert, c'est la...
Je reviens sur la question du poulet.
Du poulet. Attendez, monsieur, ouais. Parle du poulet, puisqu'on est...
De Dieu et du poulet, c'est que c'est un excellent exemple de réactualisation du surréalisme, d'anti-surréalisme éternel, puisque... Il a fait une couverture du désir libertaire, qui était la reprise de celle de 1925, la révolution surréaliste, fin de l'ère chrétienne, je sais plus, il y avait l'année, et puis là, c'est fin de l'ère islamique dans le désir libertaire. Donc, il y a une utilité absolue du surréalisme pour lui. On a parlé d'Adorno, mais il a pris effectivement dans différents endroits, et le surréalisme c'est un outil pour lui pour essayer de casser le carcan des sociétés arabes et musulmanes.
Et à ce titre, le premier poème qu'il a traduit, c'est le poème de Benjamin Perret, qui dit
le Quilombo des Palmarès. Oui,
non, pas le Quilombo des Palmarès. Le général nous a dit le doigt dans le trou du cul, etc. On revient au sujet.
Très bien. Tu vois, c'est une cohérence sur un rond de choc.
Et donc, ce texte de Benjamin Perret, adapté à la langue arabe et à la religion islamique, a fait un choc. Il a été interdit dans tous les pays arabes après.
Là, je vais me faire bien voir, particulier par Monsieur Cobert, Roger Vaillant, qui avait des staliniens, tout ce qu'on voudra, libertin, stalinien, partouzard, tout ce qu'on voudra, avait des formules comme ça, des formules qui étaient éclatantes. À un moment donné, on lui parle du pari de Pascal sur Dieu. Il répond tout simplement, je ne vais pas parier sur ce qui n'existe pas. Mais c'est un peu, un peu dans le sens que, voilà, on ne va pas s'occuper de ce qui n'existe pas. Hein.
Oui, c'est pas très intéressant.
Non, pas très intéressant. Monsieur Denis, vous avez rien foutu pour l'instant, allez-y.
Roger Vaillant faisait partie du grand jeu. Il a commencé sa longue carrière, mal, mais il a commencé dans le grand jeu. Et il a donc fréquenté Monique Bouly.
Voilà. Il y avait des gens bien dans le grand jeu. Il y avait Sima, il y avait des gens comme
Il y avait l'artiste, hein, c'était un mouvement comme tous ces mouvements d'avant-garde. Hein, il y avait tous les gens étaient représentés. Donc il y avait des poètes hein, comme Roger Gilbert Lecomte, des philosophes, Roger Daumal, des poètes comme Monique Bouly, bien sûr. Et Roger Vaillant était là, présent au premier numéro, et c'est lui qui a été la cause du conflit énorme avec le surréalisme.
Bien sûr.
Il a donc exclu du grand jeu pour sa...
Son article sur Quiap, c'est ça ?
Son article sur Quiap. Puis ensuite, il y a eu la réunion de la rue du Château qui a mis en cause encore le groupe et André Breton n'a eu de cesse d'ailleurs que de faire exploser ce mouvement. Il y est arrivé. Malheureusement, dans les années 30, il y est arrivé.
Il y avait une grande rivalité.
Alors que à l'époque, certains donnaient le grand jeu comme les succès, le mouvement qui allait prendre la suite hein, du surréalisme qui... au milieu des années 20, n'était pas un super fort.
Il y avait une grande rivalité.
Il y avait une très grosse rivalité les deux, mais surtout une rivalité de Breton pour les...
Bien sûr, c'était la base. Évidemment.
Bon, pour les jeunes du grand jeu.
Monique de Bouly, alors, vas-y.
Voilà, alors Monique Bouly, donc...
J'ai visité un peu...
Tu l'as dit, hein, Géant, ça dit ses dates de naissance, sa date de mort, mais bon, c'est un poète remarquable. Alors, c'est déjà un poète remarquable qui se fait remarquer parce qu'il n'écrit pas beaucoup de poèmes. Il a écrit pas mal de poèmes en serbo-croate et en français, il a écrit 12 à 13 poèmes assez longs, des formes assez longues de poésie, et il les a toujours dédiés d'ailleurs à un personnage, enfin un ami ou un personnage, une femme, quelqu'un de sa vie.
Qui c'est qui a traduit ça hein?
Et alors ça, c'est des poèmes qu'il a écrit en français, une fois qu'il a été en France à partir de 1928. Mais il a écrit en français.
Toi qui dis, les Roumains qui écrivent généralement en français.
Alors les Roumains, oui, mais lui, il est serbe.
Ah oui, pardon, excuse-moi.
Il existe, il est écrit en serbo-croate.
En serbo-croate, c'est ça que je veux te dire,
En serbo-croate, donc il y a des poèmes en serbo-croate. D'accord. Et j'espère que bientôt, un de ces quatre, on arrivera à avoir accès à tous ces poèmes et à tous ces écrits en serbo-croate qui aujourd'hui ne sont pas forcément
disponibles. Et qui a traduit ça au départ français.
Alors, ils ne sont pas traduits.
Ils sont pas, ils ne sont pas du tout, voilà. Non, d'accord.
Ils ne sont pas traduits, mais peut-être quelqu'un de travail. Donc, on espère bien réussir un jour à avoir une raccolte de tous les poèmes de Moni et également ses souvenirs qu'il a publiés à la toute fin de sa vie, en 68, juste après sa mort, étaient publiés des textes sur lesquels il travaillait, de souvenirs et un recueil de poèmes. Mais il l'a publié en serbo-croate.
Et qu'est-ce que tu as fait pour ce numéro de...
Alors, pour ce numéro, on a choisi, avec toute l'équipe, de publier un long poème de Moni qui s'appelle L'Angastrimite, voilà, qui a été publié, qui devait être publié dans Le Grand Jeu, qu'il avait envoyé à André Roland Bredéville, et je crois que j'ai mis la lettre.
Qui finit juge de paix, lui.
Il a quand même continué à. Comment dire, à participer à la vie littéraire. Hein. Je crois qu'il a été.
Il a écrit un Rimbaud.
Il a été exécuteur testamentaire de pas mal de gens. Mais il a écrit donc du temps du Grand Jeu. Lui, il habite à Tours, c'est un petit provincial. Il fait ses études de droit et il écrit des choses intéressantes dans le Grand Jeu. Et puis c'est lui qui a écrit effectivement ce livre Rimbaud le Voyant. C'est ce Rimbaud le Voyou, c'est Benjamin Fondane qui l'a écrit pas tout à fait en même temps, mais après.
En français, il l'a écrit.
Benjamin Fondane, ouais. Il l'a écrit, il l'a publié
c'est
en français.
Ça,
en
c'est ça, oui, ça, bien sûr.
Bien sûr, voilà. Donc, nous publions un long poème de Monique Bouly qui s'appelle L'Angastrimite. L'Angastrimite, ça veut dire, en gros, c'est le ventriloque. Mm-hmm. Alors, on pourrait penser que c'est un long texte d'écriture automatique, mais pas du tout. C'est une ode. Et puis, on publie également, pour donner accès à ce poème, on publie des lettres assez. Parce qu'il y a une très très belle correspondance de Monique Bouly avec les gens du Grand Jeu, avec ses amis de manière générale. Donc, on publie une lettre à René Daubal et une lettre à Roger Gilbert Lecomte. Dans ce petit ensemble. Et puis enfin, bon, c'est quelqu'un qui a été quand même. Il a vécu la guerre à Paris, ce qui n'était pas du tout évident pour un juif de rester à Paris et de vivre dans la capitale, en plein cœur de la ville, de la capitale occupée de la France. Et donc il a vécu ici, il a failli passer plusieurs fois dans les fourches, par les fourches de la Gestapo. C'est le poète Jean Rousselot qui l'en a un petit peu sorti lors d'un épisode particulier où il s'est fait attraper avec Paulette d'ailleurs par la Gestapo en allant voir ou en revenant d'une visite à Max Jacob à Saint-Benoît-sur-Loire. Et donc Jean Rousselot, qui lui a fait ses faux papiers d'ailleurs, une de ses fausses cartes d'identité, a écrit un poème que nous mettons ici qui s'appelle L'Obstiné.
Quand tu dis qu'il a été rendre visite à Max Jacob, c'est peut-être pas l'endroit où aller. Quand on connaît la fin de Max Jacob.
Il a rendu.
Oui, visite, c'est voilà. Ce qui est très drôle dans ce livre, sur lequel je fais une émission au mois d'août, le Père Lachaise surréaliste me demandait si on apprenait des choses. Alors j'ai répondu, celui qui connaît, il apprend pas, mais non. Et ce qui est très drôle, c'est de voir comment ce monde a tourné ensemble. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un tel épouse la maîtresse de l'autre, un tel épouse. Ils se mélangent tous. Et j'ai envie de dire que dans l'intimité, ils doivent très bien se connaître. Ça constitue toute une lui se retrouve comme ça. Dans l'éternité, c'est le cas de le dire. Dans l'héros, c'est dans l'éternité. Qu'est-ce que tu voulais dire,
non, Marc? Rien.
Pas du tout. Les surréalistes pratiquaient beaucoup ça aussi.
Oui, bien sûr. Ils ont vécu en autarcie. Ces gens qui se voulaient des aventuriers ont vécu beaucoup en autarcie, quoi.
Ah bah, oui, c'est clair. On a exposition liminaire en ce moment, je crois. Donc on voit bien qu'il y a eu pas mal d'échanges.
Alors, dans ce numéro 8, qu'on va fêter, là, je répète, à Saint-Pierre, le 4 à 15h, avec un spectacle, on ne dit pas lequel. Hein.
Non.
Ah voilà, là, nous avons l'impresario qui est là. D'accord. Effectivement, il y a Elena Miralia qui a écrit un texte.
Oui.
Sur Scapigliato, là, qui est un Milanais et qui est un mouvement. Toi qui es un spécialiste, Charlie Lou, du sujet.
Non, non, je suis pas spécialiste du sujet
des bourgeois.
C'est un texte qui a été pas mal discuté. Ouais,
c'est un sujet peu connu. Moi, ça m'a tout de suite attiré. Enfin, quand j'ai entendu qu'on allait publier cette étude, ça m'a... Je sais que José Corti voulait publier des textes sur...
Ça veut dire les ébouriffés, déjà. Hein.
Il m'avait fait lire des textes en italien, ouais. Il m'avait fait un compte-rendu, mais ça n'a jamais abouti. Mais c'est un chaînon manquant de la bohème, de la vie littéraire quoi, européenne.
Je savais que ça existait, moi, et je ne sais pas si ça vous inspire un nom d'un poète magnifique, hein, italien, qui s'appelle Gédrois, je crois, Dino Campana.
Oui.
Ça vous dit rien ?
Bien sûr.
Tu connais Marc ?
Oui, un peu.
Les chants orphiques.
L'Escapediatura, c'est le 19e siècle. Hein. On est dans la...
Oh, bah oui, Dino Campana aussi. Hein,
Dino Campana, c'est le
19e. C'est le 19e aussi, je pense. Je pensais, oui, et comme je n'ai pas trouvé, là, le seul personnage que j'ai trouvé là-dedans, je ne connaissais même pas du tout, c'était Emilio Praga.
Était dans le... Pas dans le surréalisme, parce qu'il n'y a pas de surréalisme italien, mais enfin dans ces avant-gardes italiennes proches du futurisme. Ou alors il était peut-être futuriste.
Ben, c'est bien avant, je pense.
Avant.
Ouais. Alors, je vais tout vous dire, parce que vous êtes une bande d'illettrés. Oui, c'est 1800, il meurt en 75.
Oui, c'est bien avant. On parle de mouvements qui sont au cours du 19e siècle, qui sont plutôt... En Italie, qui n'a pas la même vie littéraire qu'en France, c'est un mouvement qui vient contredire ce qui s'écrit à l'époque en Italie majoritaire.
Tu veux rajouter quelque chose On va dire que le surréalisme éternel, c'est du poulet, c'est ta meilleure phrase que tu n'aies jamais écrite, Charlie Loos. Hein. C'est dans tes œuvres complètes, on va le mettre en exergue.
Peut-être. Écoute, bon, mais le mieux, je pense que c'est les auditeurs là pourront se procurer le numéro et se faire une idée précise des enjeux de cette catégorie fondamentale qui est à la fois l'éternité d'une part, d'autre part le poulet. Et je crois que il faut qu'ils aillent voir eux-mêmes, quoi.
Il faut qu'ils aillent voir. Et d'ailleurs, la couverture de ce numéro va être exceptionnelle. Elle va être en lien avec le dossier Giflant, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant.
Ce que j'allais dire, c'est que parallèlement au dossier Giflant, nous publions pas mal d'inédits de gens qu'il a côtoyé, qu'il a accompagné, avec qui il a vécu une grande partie de son existence. Et donc, nous avons notamment en couverture un dessin complètement inédit de Toyen qui n'a jamais été exposé ni publié.
Comment vous l'avez eu ?
C'est un collectionneur particulier qui nous l'a confié.
D'accord.
Et donc, parce qu'il était très sensible au fait qu'on fasse un dossier sur Guy Flandre, et cette image est dédiée à la première Madame Flandre, à Colette, en 1964. Et donc, voilà, donc ce sera la couverture, la première de couverture du numéro 8. Et en quatrième de couverture, un dessin, alors lui aussi complètement inédit, de Guy Flandre, qui a peu produit, mais qui a fait quelques dessins, et puis assez peu décrit. Mais bon, comme on le dit dans le numéro, sa qualité première, c'est d'être, et d'être un passeur invétéré, et un traducteur hors pair. De l'anglais au français. Donc il a accompagné Toyen, Elisa Breton, comme je le disais. Il connaît tout du surréalisme fondamental, enfin les premiers et les derniers. Et donc, de ce point de vue, c'est un passeur exceptionnel. On fait un zoom particulier sur la dernière aventure de Jean-Pierre Le Goff et de Guy Flandre, qui étaient très amis, sur la banalise. Et donc, deux textes très détaillés sur ce qu'a été pour ces deux messieurs l'expérience de la banalise. Et ça n'a jamais été publié, c'est très curieux.
Passionnant.
Oui.
Alors, avant qu'on se quitte, je vous rappelle, monsieur Moscovici, Denis, que vous avez commis une chose, une mauvaise action, Mystère et Fulgurance de la Marche. C'est vous, vous reconnaissez quand même.
C'est vrai, je vous reconnais.
D'accord, c'est bien. Abdelkader El-Janabi, Clichy Poème.
Oui, oui.
Hein, et puis Jérôme Langeneuven, c'est pas mal du tout. Vêture évidente du vide, manifestation lyrique du naufrage. Et c'est la collection Mauvais Sang.
Oui, et je dois dire que grâce à M. Poplimon ici présent, nous en avons vendu quelques-uns, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, oui, ils sont présents à la librairie, ils ont une bonne place.
Et ce que tu ne sais pas, c'est que M. Poplimon, une fois qu'il touche l'argent, il va les boire au bistrot du coin.
Juste à côté, oui.
Bon, c'était un plaisir de vous avoir. Donc, rendez-vous le 4 à la Halle Saint-Pierre à 15h. Forcément, on faut remercier Monique, vous savez que c'est un rituel. Hein. Surtout aujourd'hui, on a eu très chaud, mais Monique aussi en cabine. Merci Monique.
Hein? Est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Non, pas du tout.
Bon, pardon. Pardon.
Allez-y,
non, ce que je voulais dire, on a parlé de certaines choses, mais il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans le numéro 8. Mmh. Et ouais. Notamment
Gisèle Célan.
Oui, Gisèle Célan, Josip Poupacic, dont on n'a pas parlé, mais qui mérite le détour et la vision. Et surtout, la grande surprise du numéro, ce seront les propos du rez-de-chaussée, le nouveau feuilleton de In Toto.
Qui a écrit ça?
Mystère.
J'ai encore des doutes. J'ai encore
Voulez-vous que je vous en donne le titre?
Oui, allez-y. Nous.
Une aventure du vicomte Abdoul Étienne, seul contre lui-même. Premier épisode. J'y vois rien, mais L'introuvable. Voilà. Et l'auteur est écrit en dessous. Vous le découvrirez si vous consultez le numéro.
Je
ne
sais pas si tu as vu que M. Charlilou, il connaît pas, mais il sait ce que c'est. Il vient d'intervenir. Bravo, vous êtes dévoilé.
Oui, il a tout reçu.
Oui, bien sûr, mais parce que je lui sers de lunettes. On les a oubliés.
Je ne les ai que le début. Hein.
Merci Monique, c'était un plaisir. Hein?
de gare.
À mort, au nom d'un credo coranique, se proclamer laïque devient un devoir hygiénique. Nom de Dieu.
sacrilège. C'est un cadavre, lui, cloué sur les murs d'une chambre. Le carillon d'Auschwitz, le matin du 27 décembre. Ces hosties que l'on suce, dans le rituel cannibale, et la bulle papale qui régimente notre bal. C'est cette charité qui végète autour des familles, les soldats de 12 ans qui sont en priant sur les mines. Le parfum des morts qui souhaite sous l'odeur d'encens, et ce goût du martyr qui a toujours le goût du sang. Nom de Dieu. La mort, c'est notre truc, notre fond de commerce. Nous noyons les bébés, déjà sous les promesses. Nous engrossons la peur et la mort nous engraisse. Au corbeau les charognes et aux mourants la messe. Notre étoile a le pourpre reflet toréador d'un Dieu qui crucifie son fils pour qu'on l'adore. Dès qu'un sol est sacré, c'est notre foi qui rend fada. Les enfants du génocide fusillant ceux de l'intifada. Nom de Dieu.
Enfermez vos esprits si vous voulez au Moyen-Âge, mais foutez donc la paix à ceux qui vivent en l'an 2000. Alors, quand nous aurons épuisé les croyances et rangé au musée les colifichets de la foi, nous irons quelquefois le soir sur les collines, les pieds au bord du vide, les yeux dans les étoiles, miraculeusement vivants parmi les pierres. Respirez le parfum de l'été et son mystère.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez vu? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger et haute à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez? Déchiffrer les affaires, les valises, et noyauter les médias, les cerises. Couper court à l'appel de la brise et livrer les secrets des banquises. Est-ce est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous en avez?
Regardez, il neige. L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe dansée. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien.
Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse arme et gorge ses reines, et préviens ses pucerons qu'il est bon pour la GM.
Préparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix.
Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe.
On dit qu'il passe par tous les toits.
Dommage qu'au Burundi y ait pas de cheminée.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GM.
Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras.
Se perpètent les panses des porcs à perpète,
qui rit comme des morts et appelle ça les fêtes. En novembre, ils vendent des figurines de G.I. Des tanks et des canons pour la marmaille.
L'arsenal se collectionne.
Les parents qui trippent auront-ils la maille?
Voici décembre, c'est parti. Les Barbies descendent en rappel dans les caddies, blondes squelettiques, ne pensant qu'aux 4-4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte?
Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel?
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde. Ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes.
D'arroser les âmes pour que l'ivresse oublie que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie.
Que les brevets des médicaments valent de l'or.
Plus de valeur en tout cas que des millions de morts.
C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés.
Je le croyais polyglotte, est-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes?
Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres et le verbe avoir aux verbettes et les riches et les prêtres.
Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiments charitables pour mascarade en guise de fable.
Dans sa hotte, et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe,
égorge ses rêves. Et prévient cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle. Roule dans sa robe, t'aimes plus de calpote. Que lui mange sa faute pas, égorge ses rêves. Et prévient cet escroc qu'il est bon pour la GM. Si tu vois le Père Noël.
Hey! Bakri, tu sais pourquoi les enfants chinois ne croient pas au Père Noël?
Non.
Parce que c'est eux qui fabriquent les jouets.
Quand il soufflait sur ton corsage le vent de la miséricorde, comme un pendu au bout de sa corde, je balançais. Quand il soufflait sur nos voyages le vent de la désespérance, comme un pendu sur sa potence, je desséchais. Quand il soufflera l'amour au voile de ton beau navire, afin que nul ne puisse en rire, je te tuerai.
La peinture à la Waïle, c'est bien difficile à Waïle, mais c'est bien plus beau d'Ali, d'Aladi, à Dadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah, rap-di-pé-ta-petit-petit-péto, rap-di-pé-ta-petit-petit-péto, carabine, carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobawaïles dans les rues des Fawaïles, c'est moins rigolo d'Ali, d'Aladi, à Dadi, que les pédalos à l'eau. Ah, à l'eau, ah, rap-di-pé-ta-petit-petit-péto, rap-di-pé-ta-petit-petit-péto, carabine, carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire qu'on est frisable, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de bawaïle, c'est bien inutawaïle. Et Sarah Moroz, Dali, Daladi, Adadi, vaut mieux se faire autre chose. À l'autre sels, rap-di-pé-ta-petit-petit-péto, rap-di-pé-ta-petit-petit-péto, carabine, carabot, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire connaître des frisables, elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit petit peu, 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 à la Waïle, tout petit peu, à la Waïle, tout petit peu, à la Waïle, tout petit peu, à la Waïle.
Un vieil enfer à réchauffer, la femme objet dans la baignoire et la misère au brown sugar. Le lit est froid, un vrai poignard, c'est le parking du désespoir. Le ciel est bleu, comme en enfer sur Las Vegas dans le désert. Mais n'appartient jamais à personne, n'appartient jamais, n'appartient jamais, n'appartient jamais à personne, n'appartient jamais, n'appartient jamais. Les lumières jaunes de notre zone sentent l'ozone et la mer. Les tueurs pâles de l'arrière-salle vont te parler en plein air. Dis-leur de mots et de boussole, d'idées usées par la racole. Castreurs séniles aux ongles noirs, tout se bouscule dans l'entonnoir. Les soirs craquants où tu hésites entre la marge et sa limite. Quand tu es là contre sa peau, bien à l'abri dans tes yeux clos. Flèche en altitude, un baiser dans la solitude, mais n'appartient jamais à personne, n'appartient jamais, n'appartient jamais, n'appartient jamais à personne.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Ce matin, je t'ai vu dans le fond de mon bol de caca. We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, c'est donc Nicolas au micro pour Trou Noir en compagnie de Serge. Et nous accueillons aujourd'hui dans Trou Noir pour une émission un petit peu particulière dans sa programmation, à savoir qu'habituellement nous avons un ou plusieurs invités autour d'un thème unique. Là, ce sera un petit peu différent puisque nous allons avoir trois temps et trois thèmes plutôt assez différents les uns des autres. Dans un premier temps, vous souvenez peut-être qu'il y a deux semaines, il y avait notre camarade Guillermo qui était venu nous informer au téléphone de la situation du soulèvement qui se déroule actuellement en Bolivie. Et donc, on va l'avoir à nouveau pour nous informer du vaste mouvement populaire qui se déroule actuellement en Bolivie. Ça sera le premier temps. Et puis ensuite, nous aurons, et ils sont déjà dans le studio, bien en chair et pas du tout artificiel, Patrick et Laura, que nous saluons, et avec lesquels nous évoquerons l'actualité trépidante, trop rapide de l'intelligence artificielle. Et puis, troisième temps, un autre invité, Pablo de l'équipe de la librairie Quilombo, qui viendra nous présenter en toute fin d'émission le très beau programme concocté par la librairie Quilombo, justement pour ce samedi 27 juin, à l'occasion, vous en doutez peut-être, des 90 ans de la Révolution espagnole, et une après-midi de rencontre qui s'appelle « A las barricadas ». Voilà pour le programme de la journée. Notre premier invité, Guillermo, est en ligne. Et donc, on va le saluer. Salut, Guillermo.
Salut à tous et à toutes.
Salut, Guillermo.
Est-ce que vous m'entendez bien, là ?
On t'entend très bien.
Allô ?
On t'entend très bien. Est-ce que toi, tu nous entends ?
Là, c'est bon, je vous entends bien.
OK.
Merci beaucoup encore pour m'accueillir.
Muy bien. Es un plaisir, siempre.
Tu nous appelles de Minerve, là, je suppose ?
Oui, là, je vous appelle de Minerve, oui.
Au soleil.
Alors,
et au vent. Au super soleil, ouais. 40 degrés, et des alertes feu de partout.
Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais.
C'est chaud.
D'accord. Alors, ben, justement, j'ai rappelé en introduction que tu nous avais déjà évoqué la situation en Bolivie il y a deux semaines. Alors, cette situation évolue forcément, peut-être assez rapidement. Ça, on n'en entend pas beaucoup parler dans les actualités, les canaux d'information dans notre beau pays. Je rappelle, peut-être, je fais un tout petit rappel, puis tu pourras développer aussi là-dessus. Donc, suite à l'élection, un peu par défaut, de Rodrigo Paz à la présidence de la République bolivienne, à la fin 2025, il a pris ses fonctions au début 2026, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ses premières décisions ont été